Radio Okapi. Oh, Okapi.
Après son annulation mardi par le maire de la ville de Goma, le festival Amani ouvre finalement ses portes au public ce samedi et ira jusque demain dimanche au village Iusi, près du marché de Kitoukou à Goma. Rachel Kiesse, notre reporter, couvre pour nous cet événement. Elle va dans ce journal nous parler du début de ce festival Amani. Félix-Antoine Tshisekedi condamne la brutalité avec laquelle l'opposant Délie Sessanga a été interpellé par la police jeudi à Kinshasa. Le chef de l'État l'a dit au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, y revient dans ce journal à travers le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Notre invité dans ce journal, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires, Jeanne Alacha, vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. Bonjour à tous. Le festival Amani ouvre finalement ses portes au public ce samedi 16 et demain dimanche 17 novembre. Aujourd'hui, ce sera de 12h à 18h au village Iusi à Kitoukou dans la ville de Goma. Cela après l'annulation annoncée par le maire mardi et la levée de la mesure hier vendredi. Retrouvons sur place au village Iusi notre reporter Rachel Kiesimbangu. Bonjour Rachel, que pouvez-vous nous dire concernant cette 10e édition du festival Amani?
Bonjour Noëlla. Pour cette édition, le festival met à l'honneur les talents artistiques de Goma afin de célébrer la richesse culturelle locale. Véritable symbole de paix dans la région des Grands Lacs, le festival Amani rassemble chaque année des dizaines, des milliers de festivaliers venus de toute la RDC et des pays voisins. Les spectacles se dérouleront de 12h à 18h au village Iusi. Le festival Amani se sent également plus de 500 bénévoles mobilisés pour faire vivre cet événement au cœur de la ville.
Comment le festival Amani s'impose-t-il comme un festival culturel majeur?
Depuis 2014, le festival Amani s'est imposé comme un événement culturel majeur, porteur d'espoir et de résilience dans une région marquée par les conflits. À travers la musique, la danse et l'art, il continue de promouvoir la paix et l'unité, ce qui justifie le fait que plusieurs artistes, opérateurs culturels et personnalités, parmi lesquels Inos B, Tikenja Fakoli, Lokwakanza Youssoufa, Claudiciar et Didier Awadi ont signé une pétition intitulée « Pour la culture, pour la paix et pour l'espoir ». Ce texte appelle à soutenir le festival comme un moyen de promouvoir la cohésion sociale et la résilience.
Vous êtes sur place Rachel, dites-nous comment ça se passe et qu'est-ce qui est prévu pour cette première journée.
Vous savez, ici au village Iusi, c'est sous la pluie que les installations se poursuivent, le podium est placé, le check sans se fait. Pas grand monde jusque-là, vu la pluie qui s'est invitée. Toutefois, progressivement, ça prend forme. Quant au lancement du festival prévu à 12h, nous hésitons quant au respect de l'heure. Pour ce samedi, les fanfares du Kivu doivent ouvrir le bal, suivi de Fimbokali, d'autres artistes locaux pour clôturer avec DJ Spilulu. Voilà tout pour le moment. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution.
Le président de la République condamne la brutalité avec laquelle l'opposant Délie Sessanga a été interpellé par la police jeudi à Kinshasa. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier vendredi, au-delà des mesures déjà prises à l'encontre des policiers, auteurs de la bavure décriée, Félix Tshisekedi engage le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement des manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus de la part de la police. On écoute un extrait de ce compte-rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Un extrait proposé par Grace Hamzati.
Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique Délie Sessanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée.
Une autre réaction à cette brève interpellation de Délice Essanga, c'est celle du prix Nobel de la paix congolais, Dr Denis Mukwege. Il se dit profondément choqué par cette interpellation brutale de Délice Essanga. Il rappelle que la constitution de 2006 est le fruit d'un référendum populaire qui a été l'acte fondateur de l'avènement de la démocratie en RDC. Selon Dr Denis Mukwege, cette démocratie est aujourd'hui chancelante et menacée par un régime en pleine dérive autoritaire, méprisant les libertés fondamentales garanties par ce contrat social et par les conventions internationales relatives aux droits humains auxquelles notre pays a librement souscrit. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, et le consortium Congo n'est pas à vendre ont appelé hier la National Prospecting Authority sud-africaine a enquêté sur des fonds congolais détournés et dissimulés dans les biens immobiliers en Afrique du Sud. Ces organisations de la société civile ont lancé leur appel au cours d'un échange avec le média à Kinshasa. Le porte-parole de CNPA a exprimé sa préoccupation de l'absence d'action des autorités sud-africaines à la suite de soumission des preuves démontrant des politiques congolais ayant blanchi les fonds détournés dans l'acquisition des propriétés au pays de Mandela. Jimmy Kande est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons voulu, avec nos amis de Open Secret en Afrique du Sud et les différentes organisations afro-hautes autres qui sont dans cette plainte, rappeler aux autorités sud-africaines que nous attendons d'eux de pouvoir agir et d'aider les Congolais à pouvoir récupérer tous ces biens qui ont été achetés en Afrique du Sud avec de l'argent public du contribuable congolais. Alors qu'on est en train de s'adresser en même temps aux autorités sud-africaines, cette conférence est aussi une forme de rappel aux autorités congolaises. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une impunité totale. Nous avons décrié cette impunité à l'époque de Kabila et aujourd'hui, rien ne semble changer. Le président de la République, récemment, il a dit qu'il était prêt à ouvrir les casseroles. Ouvrir les casseroles passe également par l'ouverture de l'enquête Congo Hold-up qui doit faire en sorte que l'argent public congolais qui a été détourné, des biens qui ont été achetés avec cet argent, puisse être restitué aux Congolais.
Dans la province du Maniema, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité appelle à l'ordre les éléments de la police et des FRDC basés dans le territoire de Kasongo. Lawamo Selemani Taylor l'a dit hier lors de la parade mixte. Il met en garde tout celui qui va se compromettre. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Maniema, Lawamo Selemani Taylor, joint par Florence Kizalunga.
Devant ces patriotes, au nom du gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse, je suis venu leur conscientiser, pour leur donner du cœur, pour que la mission à laquelle ils sont appelés accomplir, que ces policiers, que ces éléments de l'ordre puissent l'exécuter en respectant les règles d'art. Et nous avons profité de cette occasion pour présenter le président de la société civile qui est venu, ayant suivi qu'il y avait des éléments de l'ordre, soulagé, tant sa paix. Il est venu avec sa contribution, il a procédé à une petite collecte de sa base pour pouvoir appuyer les éléments de l'ordre à la restauration. Quoi? Parce que le président de la société civile ne voulait pas à ce que sa population puisse commencer à être rançonnée parce qu'on ne peut pas faire la sécurité en excluant la population. Donc, en collaborant avec lui, la mission de maintien de l'ordre, ça va s'accomplir comme il se doit. Je venais de leur dire d'ailleurs, de rappeler, parce que les militaires qui sont arrivés là, ils sont venus en appui à la police. Donc, c'est pour une mission de maintien de l'ordre public. Ils ont une discipline. On a toujours dit, dans l'armée, il n'y a pas une mauvaise troupe, il y a un mauvais chef. Nous avons longuement parlé avec les responsables. Ce sont des gens qui sont bien formés, qui connaissent la déontologie militaire, qui connaissent comment il faut se comporter. Donc, et puis, ils ne sont pas à l'abri des poursuites. Nous allons activer aussi l'auditorat qui est ici, d'être très vigilant. Et à chaque fois qu'il y a une violation qui touche un élément de l'ordre, c'est tout législatif devant les instances militaires, qu'on puisse l'inquiéter. Donc, il n'y aura pas d'électron libre.
Dans la province de la Tchopo, les anciens combattants réclament leur salaire de septembre et octobre dernier. Ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de rétention de leur salaire lors d'une rencontre mercredi avec le président intérimaire de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Cependant, le chef de division provinciale de budget les appelle à l'apaisement puisque, dit-il, les démarches sont en cours pour résoudre leurs problèmes. Le point avec Jacques Moukonkole.
Au cours de cette rencontre du président intérimaire de l'organe de Libéran avec la délégation des agents publics de l'État retraités, on a noté également la présence des cadres de services intervenant dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment des chefs des divisions provinciales de budget, finances, anciens combattants, ainsi que du comptable public de ce service. Selon ces cadres de l'administration publique, le salaire de septembre aurait déjà été payé si un message du gouvernement central n'était pas intervenu pour arrêter ce processus. Et d'ajouter que conformément au message de l'ordonnateur du gouvernement, la paie ne pourra intervenir qu'après le contrôle physique de tous les anciens combattants par une mission qui viendra de Kinshasa. Quant au mois d'octobre, déclare le chef de division provinciale de budget, l'argent n'est pas encore décaissé par le gouvernement. En outre, précise-t-il, la division des anciens combattants n'est pas répertoriée sur l'état liquidatif de ce dernier trimestre de l'an 2024. Il croit savoir que les anciens combattants seraient peut-être migrés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Néanmoins, Simon-Pierre Lossoya leur demande de garder le calme, puisque, souligne-t-il, les autorités ne tarderont pas à réserver une suite favorable à leurs revendications. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Les leaders communautaires, les chefs coutumiers et d'autres forces vives du secteur de Benimbao, au nord Kivu, ont été sensibilisés mardi à la nécessité de s'approprier les travaux de construction des infrastructures socio-communautaires de base dans le territoire de Beni. Parmi les projets en cours figurent la construction des deux écoles, d'un centre de santé ainsi que la réhabilitation de 52 km de route. Clovis Mouniré, coordonnateur provincial du PDDRCS au nord Kivu, a appelé la communauté à soutenir ce projet. Il a par ailleurs lancé un appel aux groupes armés encore actifs dans le territoire de Beni à se rendre volontairement pour profiter des opportunités offertes par le projet Starest. Clovis Mouniré est dans un extrait choisi par André Kitenge.
Le message à transmettre que la communauté s'approprie du projet parce que les infrastructures qui seront érigées ici, ça va rester ici, dans le secteur de Mbao, définitivement. Donc, les communautés, ils ont besoin de s'approprier ces projets et accompagner les acteurs de Star-Est et ceux du PDDRCS qui sont censés suivre et encadrer la mise en œuvre de ces infrastructures. Et je profite aussi pour faire appel aux combattants qui traînent encore et qui sont encore dans la brousse. Voilà des opportunités. Ceux qui vont travailler, ce ne sont pas des gens qui viendront de l'Ouest, ce sont les enfants d'ici, les fils du terroir, qui vont travailler comme MEDEF. Et comme vous le savez, les PDDRCS et les Star-Est, ils travaillent en complémentarité. Et pour nous, on ne veut plus démobiliser les gens et les laisser dans la rue. Donc on les démobilise et automatiquement, on leur donne de l'emploi pour qu'ils ne puissent plus faire la marche arrière dans la brousse et reprendre les armes.
Butembo, toujours au nord Kivu. Cette ville est en proie à une insalubrité criante et à la dégradation avancée de plusieurs de ses artères principales, comme l'avenue Matokeo, une partie de la rue Kinshasa dans le quartier Mutsanga, longue de 4 km à partir du rond-point Malumalu, ou encore le tronçon Shop Central Vodacom menant vers Mutiri. Ces conditions aggravent les risques d'accidents et suscitent l'indignation des habitants. Face à cette situation alarmante, Mbenze Yota Manzanzu, député provincial élu de Butembo, a rencontré le maire pour proposer des pistes de solutions urgentes. Il a notamment insisté sur la mise en place d'une équipe permanente de nettoyage et sur la réhabilitation des avenues impraticables. Voici un extrait de ses propos choisis par Guylaine Kassassia.
Nous avons reçu beaucoup d'administrés ici à notre office qui se sont indignés par rapport à les salubrités qui caractérisent la ville de Butembo. Si vous traversez les artères de la ville de Butembo, le boulevard, surtout les rues à venir macadamisées, vous allez constater avec amertume que les salubrités ne cessent de caractériser notre chère ville. C'est en ce titre que nous avons estimé nécessaire de rappeler monsieur le maire de ville par rapport à sa mission de garantir l'ordre public et que donc, lorsqu'il y a le salubrité, nous estimons que l'ordre public est touché déjà dans son aspect salubritaire. Nous avons estimé que monsieur le maire de ville devrait mettre en exergue une équipe permanente, devra chaque fois balayer le boulevard des rues macadamisées évidemment, mais aussi lutter contre cette impraticabilité qui caractérise certaines avenues de la ville. Les caniveaux sont tellement bouchés, c'est vraiment inacceptable que la ville continue à se détériorer de cette manière alors que nous avons évidemment des autorités qui sont censées soulager la population, minimalement soit-elle.
Actualité internationale. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce samedi au Gabon pour permettre aux électeurs de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. projet présenté par le régime du général Brice Oligui Nguema comme un tournant majeur après le putsch d'août 2023. Le projet de nouvelle constitution gabonaise impose au candidat à la présidentielle d'être exclusivement gabonais, né d'au moins un parent gabonais de naissance et marié à une personne gabonaise. Des conditions assouplies après une première mouture, se limitant désormais au seul gabonais né de deux parents gabonais. Le texte consacre entre autres un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois avec un régime présidentiel au pouvoir exécutif fort sans premier ministre mais avec un vice-président nommé par le chef de l'État et un pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale.
L'invité.
Notre invité dans ce journal, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires. Jeanne Alacha vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. C'est dans le cadre du protocole de Maputo. Jeanne Alacha nous parle de la contribution de la RDC à ces assises qui ont réuni plusieurs chefs d'État africains et leur impact pour le pays, dont la province de l'Ituri, affectée par de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Jeanne Alacha s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Jeanne Alacha, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de prendre part à un atelier sur le renforcement des relations entre les États francophones dans le cadre du protocole de Maputo en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est quoi le protocole de Maputo?
Le protocole de Maputo, d'abord, c'est la charte africaine. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est une qui gère tous les Africains. Pour compléter cette charte qui n'avait pas beaucoup tenu compte des problèmes des femmes, on a fait un protocole qui complète la charte. Et maintenant, c'est le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
De quoi il était question dans cet atelier?
Dans cet atelier, il était question de rappeler d'abord au pays, quand un pays adhère à la charte, quand un pays ratifie les protocoles, doit faire des rapports pour que, au niveau de l'Afrique, on regarde s'il y a des évolutions positives ou bien il y a des reculs ou il y a des changements. Pour faire les rapports, est-ce que les droits de l'homme et les droits des femmes évoluent positivement? C'est pourquoi il faut faire des rapports. Dans notre cas de la RDC, dans 20 ans, on a fait seulement un seul rapport.
Et qu'est-ce qui fait à ce que la RDC ne produise pas assez de rapports, donc au regard de tout ce que les peuples congolais connaissent jusqu'à présent?
Bon, je crois que le problème des rapports, c'est question aussi d'organisation. Peut-être qu'au niveau de chaque ministère, il y a du retard, mais ce qui est sûr, à la RDC est en train de préparer son deuxième rapport.
Cette rencontre a réuni différents chefs d'État africains. Qu'est-ce qui a motivé la présence de l'Ituri à ces assises?
Bon, nous, la présence de l'Ituri, c'est parce que déjà, en Ituri, par rapport au ministère du genre, nous sommes vraiment très actifs. Nous sommes parmi les provinces qui sont vraiment, même dans la mise en œuvre de la résolution 1325, les suivis des droits des femmes. C'est comme ça qu'on a été identifié par les ministères de genre pour pouvoir aller représenter au moins les provinces dans ces assises-là. Donc c'est vraiment par rapport au leadership qui se passe au niveau de notre province qu'on a été identifié.
Ça veut dire que l'Ituri a eu des particularités, par exemple, pour être représenté là-bas?
La particularité de l'Ituri, c'est d'abord nous sommes dans une zone de conflit, et dans les rapports, on parle vraiment des conflits aussi. Il y a des viols des femmes qui se font au niveau de l'Ituri, il y a beaucoup de discriminations, donc on pouvait aussi quand même montrer l'image de l'Est, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Est. C'était quand même important que nous soyons là avec la délégation de Kinshasa pour qu'on montre aussi qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut compléter les rapports avec ce qui se passe au niveau de l'Est.
Quelle a été votre contribution dans le cadre de la promotion du leadership féminin africain en s'inspirant sur l'exemple de l'Ituri?
Bon, on a été invité parce que on a fait la conférence dans une université de Boaké, l'université Alassane Ouattara. Et Boaké, vous savez que c'était aussi une région qui était très affectée par les guerres. C'était aussi une zone qui était contrôlée par les rebelles qui est tentée de se reconstruire. Donc il fallait quand même partager avec les étudiants de cette région qu'est-ce qui se passe en Ituri. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi intéresser les jeunes, surtout on a fait à l'université et à l'école secondaire.
Que peuvent donc attendre les femmes de l'Ituri, en particulier celles qui vivent dans des conditions misérables, dans les sites déplacés, par exemple ici, de ces assises?
D'abord, les assises qu'on a fait d'abord d'accord au niveau de protocole de Maputo, ça veut dire là, ce sont les obligations des États. Donc, le point de vue de l'Ituri, ce qui est important, c'est de montrer qu'en Ituri, que les femmes ont un rôle très important à jouer. Ils sont dans les négociations, dans la prévention des conflits et dans tout ce qui est relèvement communautaire. Alors, qu'est-ce que les femmes de l'Ituri peuvent attendre? Les femmes d'Ituri ne peuvent pas attendre que ça vienne de la Côte d'Ivoire, mais on a partagé leur travail là-bas. Ça veut dire quand même que leur travail est reconnu au niveau aussi des autres pays d'Afrique. Donc l'Ituri, la RDC, même l'Ituri peut être défendue aussi par d'autres pays africains. Parce que les autres pays africains ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de ce qui se passe en RDC. Ils sont touchés et ils veulent que ça cesse.
Jeanne Alacha, je vous remercie.
Merci.
Fin de ce journal, la grande édition en langue française de la mi-journée sur Radio Okapi. À la coordination et à la supervision, c'était Jacques-Yves Molima. Un journal mis en onde par Polydor Basunga dans une présentation de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres.